Alors, un très bon matin à vous tous, un bon dimanche. Merci de votre présence parmi nous ce matin. Et ma prière, c'est que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage ce matin. Alors, comme vous pouvez voir à l'écran, c'est le commencement d'une toute nouvelle série de messages intitulée « Si Noël m'était compté ». Alors, ce dimanche-ci, et les deux dimanches suivants, nous allons traiter alors ce thème dans le contexte, parce que vous savez tous, Noël s'approche à grands pas. Alors, c'était un temps très propice justement pour parler de Noël. Alors, vous savez, en parlant de Noël, il y a deux extrêmes qu'on pourrait prendre. Dans un premier temps, si nous sommes chrétiens, nous pouvons dire que Noël, c'est une fête païenne qui a été christianisée. Et ça, c'est vrai. Si vous allez sur Google, Wikipédia, vous faites la recherche, vous allez voir que, à l'origine, Noël, c'était une fête romaine, païenne. Et quand, sous l'Empire romain, à un moment donné, quand le christianisme a pris justement plus de l'ampleur, dans justement l'Empire romain, que la fête a été christianisée et elle est devenue par la suite ce que nous connaissons aujourd'hui, la fête de Noël. Et je dois vous avouer qu'à un moment donné dans ma vie chrétienne, jeune chrétien, zélé, qui voulait être super spirituel, à un moment donné, j'ai décidé que on allait plus célébrer Noël dans ma famille. Le jour de l'an, c'était correct, mais Noël, on voulait rien savoir. C'était une fête païenne qui avait rien à faire avec le Seigneur. Et l'autre extrême, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis un peu plus sage. L'autre extrême, c'est de voir Noël et surtout de nos jours, vous êtes justement témoin de cela. Les magasins, s'ils en profitent, c'est une fête qui a été commercialisée. Et aujourd'hui, maintenant, ce temps de l'année rime avec dépenses, rime avec cadeaux, rime avec toutes sortes de choses, des parties de bureau, etc., etc. Et surtout si vous êtes enfant, c'est le temps de l'année aussi où est-ce qu'on... On veut en recevoir des cadeaux, amène-en, hein, comme on dit quand on est jeunes enfants. Et moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais cette attitude à l'égard de Noël. Mais vous savez, nous pouvons trouver aussi un juste milieu et utiliser ce que j'appelle notre liberté chrétienne. Dans l'épître de Paul aux Romains, Paul va dire il y a tel qui fait une distinction entre les jours. Tel autre les estime tous égaux. Alors, il n'y a rien dans la parole de Dieu qui nous empêche justement d'avoir un temps de l'année que nous appelons dans notre langue française Noël et justement de le célébrer. Mais quelle devrait être notre attitude face à ce temps de l'année? Comment est-ce que nous pouvons célébrer ce temps de l'année qui aura aussi une bonne manière qui serait agréable à notre Dieu? Vous savez, c'est intéressant que si vous regardez les langues, et j'ai fait un peu de recherche dans les langues différentes, et ce matin je vais pratiquer ma prononciation. Feliz Navidad, ça c'est l'espagnol, pour justement parler de ce temps de l'année. Et on voit ici Navidad, ça ressemble un peu à notre mot français nativité. Et Feliz, la félicité. Alors il y a des idées que vous pouvez déjà voir qui commencent à germer dans votre esprit. En italien, on va dire Buon Natale, j'ai oublié le E. En allemand, Frohe Weihnachten. En anglais, Merry Christmas, et le français va dire Joyeux Noël. Alors, à travers ces différentes expressions, Bon, ça veut dire bon, natal encore, l'idée de nativité. Fruit, c'est pas évident, ça peut se ressembler à être fruit, mais c'est pas ça. C'est la joie. Et Weihnachten, ça veut dire simplement une nuit sainte. Merry Christmas, mais Christmas Christ, alors le mot est là. Et ensuite, joyeux Noël, c'est moins évident, je n'entrerai pas dans la signification de ça, mais joyeux au moins une idée. Alors si on met tout ça ensemble, on a cette période de l'année où est-ce qu'on regarde, on voit qu'il devrait y avoir des bons sentiments, sentiments de bonheur, de joie, en relation avec nativité, naissance, la nuit sainte et ainsi de suite. Alors vous avez l'idée que Noël, c'est cet an de l'année où est-ce que joie relié avec naissance. Mais on va pas se baser uniquement sur justement les expressions que nous trouvons dans les langues différentes, parce que vous savez, ça change avec le temps. Et souvent, même de plus en plus, on entend presque plus les gens se souhaiter joyeux Noël. Vous allez entendre plutôt joyeuses fêtes. Alors, si on veut vraiment avoir une bonne indication de ce que je viens de dire, il faut consulter la parole de Dieu qui ne change jamais, qui est toujours de l'actualité, et voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Si on demanderait à un ange du ciel de nous donner une description, donner des idées sur Noël, que dirait-il? Alors pour cela, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire dans l'Évangile selon Luc. C'est le chapitre 2 et notre texte pour ce matin, c'est les versets de 8 à 12. J'ai mis un petit résumé ici, les versets 10 et 11 à l'écran, mais ce qui nous concerne, c'est justement c'est les versets 8 à 12. C'est la visite justement des bergers visités par les anges du ciel. Alors Luc chapitre 2. Au verset 8, on lit ceci. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Alors Noël, voyez ici la signification. Une bonne nouvelle qui sera le sujet d'une grande joie. Alors nous pouvons dire simplement Noël, une histoire de joie. Si Noël m'était compté, et comme nous venons de lire, et comme l'ange nous dit directement de la bouche d'un ange, cette naissance qui se retrouve dans des langues différentes, comme nous venons de voir, est associé étroitement avec la joie. Noël, une histoire de joie. Et comme nous avons vu ce matin, pour ceux qui étaient ici lors de la première réunion, la naissance, justement, de Jésus-Christ est une source de joie, devrait être une source de joie. Et nous, en tant que ceux qui connaissent Jésus-Christ, nous devrions aussi être en train de participer, refléter cette joie. Alors la question que je vous pose et je me pose ce matin, sommes-nous des chrétiens joyeux? Sommes-nous des chrétiens joyeux? Quand nous approchons de ce temps de l'année, où est-ce qu'on va parler de la naissance? Où est-ce que l'ange nous dit que c'est un sujet d'une grande joie? Est-ce que dans nos cœurs, ça évoque justement ce sentiment de joie? Et vous savez, pas seulement ce temps de l'année, parce que nous devrions aussi, nous pouvons, il n'y a rien qui nous empêche de nous rappeler de notre Sauveur après Noël, au mois de février, mars, avril, bref, tout au long de l'année. Alors, c'est quoi l'implication de cela? C'est que nous devrions être toujours joyeux. Une autre chose aussi, parce que la parole de Dieu nous dit, servez l'Éternel, comment? Avec joie, psaume 100. Et si je vous poserai la question, combien de jours par année devrions-nous servir le Seigneur? 365 sur 365, et quand il y a une année bissextile, vous avez une journée de plus. Alors, si nous devrions servir le Seigneur tous les jours de notre vie, alors on arrive à la même conclusion. Nous devrions être des personnes qui servent l'Éternel avec joie, et les chrétiens devraient être caractérisés par la joie. Ceux qui étaient à la conférence d'Oula cette année, où est-ce que l'animateur, le conférencier était M. Alexandre Strank, à chaque fois qu'il venait, avant de livrer son message, il nous posait la question, « Êtes-vous joyeux? Savez-vous que les chrétiens devraient être les gens les plus joyeux sur la planète? » Eh bien, il avait raison. Et il y a une raison pour cela. Je pense qu'il y a une implication très, très pratique du fait que nous devrions être ceux qui sont caractérisés par la joie. Et ça, c'est donc le contexte de l'évangélisation. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que nos vies, l'apôtre Paul va dire ceci dans son deuxième épître aux Corinthiens, que notre vie est comme, nous sommes comme une lettre. Notre vie est comme une lettre qui est connue et lue par tous les hommes. Et dans le contexte de l'évangélisation, comme on dit en bon québécois, on n'attire pas des mouches avec quoi? De vinaigre. Alors imaginez, vous voulez amener quelqu'un au Seigneur Jésus-Christ et votre vie manque justement cet élément et vous présentez par votre vie quelqu'un qui semble être démoralisé, défait, et ainsi de suite. Je vois mal comment ce quelqu'un pouvait avoir ce désir de posséder ce que vous avez. Vous savez, et je ne veux pas non plus culpabiliser personne, mais ça c'est la réalité. Et je sais que la vie aussi est dure. Et je ne peux pas vous dire, comme Benoît a confessé ce matin, et puis moi aussi je confesse, je n'ai pas été tout le temps 365 jours sur 365, et même 366, dans un état justement où est-ce que la joie dans mon cœur déborde. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des problématiques de santé. Et quand on va chez le médecin et on reçoit des nouvelles, pas des bonnes nouvelles, mais des nouvelles qui nous secouent un peu, c'est sûr que ça vient justement nous chercher. On peut avoir aussi des problématiques au niveau des finances, quand c'est difficile de boucler justement les fins du mois. Niveau de la famille aussi, avec peut-être difficulté dans le couple, difficulté peut-être avec nos enfants, peut-être avec nos petits-enfants, dans les relations entre d'autres membres de la famille, même au sein de l'Église aussi, il peut y avoir des difficultés, des conflits. Et vous savez, c'est tout à fait normal dans ces situations de ne pas être joyeux. On ne peut pas être masochiste, c'est tout à fait normal. Mais vous savez que la vie chrétienne n'est pas une vie normale. Ce qui est naturel dans le domaine normal, quand on vient dans la vie chrétienne, c'est une vie quoi? Surnaturelle. Alors, par la puissance de l'Esprit, le défi est devant vous et le défi est devant moi, c'est que dans ces circonstances-là, nous gardons quand même notre joie. Alors, comment faire cela? Comment être de ceux qui sont caractérisés par la joie? Comment être de ceux qui n'ont pas besoin seulement de Noël pour être joyeux, mais qui sont joyeux tout le temps, si c'est possible? Ou bien beaucoup, 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 si c'est possible? Alors, on va revenir à notre texte. Et j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Dans le texte, l'ange a parlé d'une bonne nouvelle. Mais après, il a continué. Il dit qu'il sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et là, il donne l'explication. Pourquoi cette bonne nouvelle est un sujet d'une grande joie? C'est parce que, et voici, il vous est né un sauveur. Et là, vous avez les deux choses qui sont étroitement liées. La joie qui est liée avec le fait qu'il y avait, à cette époque, dans la vie de David, il y avait un sauveur. Joie, sauveur. Sauveur, joie. Et vous savez qu'à travers la parole de Dieu, ces deux termes sont souvent reliés. Qu'il s'agit du sauveur, qu'il s'agit du salut, qu'il s'agit d'être sauvé, toujours accompagné par la joie. Et vous donnez quelques exemples ici au tableau. Vous avez Marie, dans ce qu'on appelle la cantique de Marie, quand l'ange a annoncé justement qu'elle allait enfanter l'enfant Jésus. Marie, mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit fait quoi? Se réjouit en Dieu, mon sauveur. Vous voyez le lien? Marie est dans la joie, elle se réjouit. Mais dans qui? Dans son sauveur. David, dans Psaume 51, est dans une situation extrêmement difficile. Il a passé par une période sombre de sa vie. Il a commis l'adultère. Il a aussi été responsable pour un meurtre. Et une fois que le Seigneur a parlé à son cœur, David s'est repenti de son péché. Il est allé dans la présence de Dieu. Il a composé le Psaume 51. Et dans ce psaume, David va dire une chose à Dieu. Il dit, « Rends-moi la joie de ton salut. » David savait que dans ce moment précis de sa vie, il manquait cet ingrédient précieux. Le salut de Dieu apporte la joie. Et là, nous avons l'expression, nous avons une illustration pratique aussi dans la parole de Dieu, dans Actes chapitre 8. Vous rappelez l'histoire, vous avez cet homme, un eunuque, qui est allé à Jérusalem pour adorer. Et là, ils sont retournés, un homme de l'Éthiopie, probablement un noir. Et là, le Seigneur, qui ne fait pas distinction de race, de couleur, de personne, envoie Philippe, l'évangéliste, pour le rencontrer. Et cet homme est assis dans son char, dans son chariot, il est en train de lire le prophète Ésaïe à propos du Seigneur Jésus-Christ. Et là, il ne comprend rien. Et là, Philippe s'approche et dit, « Comprends ce que tu lis. Comment est-ce que je peux comprendre s'il n'y a personne qui me l'explique ?» Alors, il invite Philippe à monter dans son chariot et Philippe lui présente le Christ. Et cet homme a été sauvé, glorieusement sauvé ce jour-là. Et là, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu a enlevé Philippe, tandis que cet homme, cet eunuque ici, joyeux, il poursuivait sa route. Il venait tout juste d'être sauvé. Il ne pouvait pas justement garder ça pour lui. Mais il y avait une explosion de joie. Et là, il était bien content d'avoir connu justement le sauveur. Et l'exemple par excellence, bien sûr, c'est le berger. Jésus-Christ a dit, « Je suis le bon berger. » Il a dit aussi, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdu. Alors le sauveur, le berger, dans Luc chapitre 15, vous pouvez lire cela, ça déborde de joie. Cette brebis qui était égarée, le sauveur va à sa rencontre. Et ça, c'est une illustration de vous et moi quand nous étions dans nos péchés perdus. Et le bon berger qui vient chercher les brebis perdues. Et vous pouvez vous-même avoir, vous avez votre propre témoignage, mais la parole de Dieu nous dit que quand il trouve cette brebis, il la met avec joie sur ses épaules. Le berger est joyeux aussi. Le sauveur est joyeux. Et là, quand il arrive à la maison, qu'est-ce qu'il dit? Il ne garde pas ça pour lui-même. Il appelle ses amis, ses voisins, et il leur dit, réjouissez-vous avec moi. Parce que j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Et ça ne finit pas là. Il y a une explosion de joie même au ciel. Le Seigneur va dire qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un pécheur qui se repent. Alors là, nous avons justement cette naissance sauveur, sujet de joie. Et je n'ai pas touché à vous. Vous savez que chacun de vous aussi, dans votre, comme Donald a partagé ce matin, et d'autres pouvaient partager, quand vous avez été sauvés, la joie que vous avez ressentie dans votre cœur, de se savoir justement sauvé. Parce que salut, sauvé, sauveur, rime avec joie. Avant d'aller plus loin, nous pouvons nous poser la question et clarifier justement cette notion de joie. Pourquoi est-ce que quand nous sommes sauvés, quand nous connaissons le Sauveur, quand nous avons le salut, il y a cette explosion, ce sentiment de joie qui jaillit dans nos cœurs? La définition nous dit, le petit Larousse nous dit que c'est un sentiment de bonheur intense, éprouvé par une personne dont une aspiration, un désir est satisfait. Et je n'ai pas mis les images, mais on a entendu quelques exemples ce matin. Vous avez aussi sans doute des exemples des personnes joyeuses. On n'a qu'à penser justement à ceux qui sont des sportifs. Et vous avez votre équipe préférée. Et vu que nous sommes québécois, mais on sait que l'hockey, c'est dans nos racines. C'est notre sport que les Canadiens ont inventé. Alors, si vous prenez pour les Canadiens, moi je suis pour Boston, mais ça c'est une autre chose. Mais quand les Canadiens gagnent, c'est quoi? Vous êtes joyeux! Et quand votre équipe perd, mais là vous êtes moins joyeux. Et si les Canadiens font les séries, mais là c'est la euphorie, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Si vous êtes bien partisan des Canadiens. Si vous êtes aussi, vous pouvez remarquer aussi lors des Olympiques, ces athlètes qui ont le désir, les aspiration justement de monter sur le podium, mais quand ils gagnent une médaille d'or, comment est-ce que tu vois dans le visage, comment c'est illuminé? Ils sont joyeux parce qu'un désir, une aspiration a été comblée. On a parlé aussi ce matin des parents qui, un enfant vient de naître dans la famille. Et c'est un sujet de joie pour les parents et aussi pour les grands-parents, bien sûr. Et on voit justement les visages qui sont illuminés parce que encore une aspiration, un désir qui a été satisfait. Et dans le contexte justement de un sauveur, le salut, être sauvé, nous pouvons nous poser la question, mais c'est quoi l'aspiration? C'est quoi le désir qui a été satisfait, qui a été comblé dans ce contexte d'un sauveur, de salut, d'être sauvé, qui nous amène justement la joie? Et pour répondre à cette question, il faut remonter dans le temps, loin, 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 extrêmement loin, et retourner dans le jardin d'Éden. Et là, vous avez le scénario idéal, parfait. Là, vous avez un homme, vous avez Dieu, vous avez un homme et une femme, bien sûr, et vous avez Dieu. Et là, c'est dans Genèse, nous avons justement le récit de la création. Et là, vous avez Dieu qui va souffler dans les narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Alors, Dieu a donné à l'homme qu'il a créé la vie. Dieu aussi a donné, il y avait dans le jardin d'Éden une proximité. L'homme que Dieu a créé, la femme, ils étaient proches de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu avait cette habitude de parcourir le jardin vers le soir et d'avoir cette intimité, cette tête-à-tête avec l'homme et avec la femme. Et aussi, il y avait une ressemblance qui caractérisait Adam et Ève. Dieu créa l'homme à son image. Vous avez cela tous dans le récit dans le livre de Genèse. Alors, vous avez alors ce couple-là au début qui sont en Éden, qui possèdent la vie, qui possèdent justement cette proximité et qui possèdent cette ressemblance à Dieu. Et tout est beau. Jusqu'à ce que le serpent, le diable, va apparaître sur la scène. Et vous connaissez l'histoire où est-ce qu'il va tenter Ève. Et ensuite, c'est Adam qui tombe aussi. Et les deux, maintenant, sont dans une situation extrêmement difficile. Et Dieu va intervenir. Et qu'est-ce qui va arriver en ce moment-là? L'homme, à cause du fait qu'il a péché, il a pris du fruit qui a été défendu par Dieu, tenté par le serpent. Vous connaissez l'histoire dans Genèse chapitre 3. Mais il y a une sentence de mort maintenant qui est imposée. Parce que Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce n'était pas physiquement, mais la mort est entrée justement dans l'humanité à ce moment précis-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui les cimetières sont pleins. Nous mourons à cause justement de ce péché. Vous avez aussi une séparation d'avec Dieu. Cet homme et cette femme qui avaient cette intimité avec le Créateur, ils ont été chassés du jardin. Ça, si on peut lire ce récit dans Genèse chapitre 2, au verset 17. Et vous avez aussi la souillure du péché. La parole de Dieu nous dit que Adam va engendrer un fils, mais à son image. Et cette image de Dieu à cause du péché a été ternie, brisée. Et Adam va maintenant engendrer une descendance, mais à l'image justement d'Adam. Et vous savez qu'est-ce que ça peut nous donner? On a cette dualité chez l'homme que Dieu a créé. L'homme qui est capable justement du meilleur et qui est capable aussi du pire. Et dans cet aspect-là, vous avez des œuvres de charité, des œuvres justement de bienfaisance et ainsi de suite, des progrès extraordinaires. Parce que l'homme a toujours cet aspect de cette image de Dieu qui est là, mais aussi à cause du péché qui est entré dans le monde, vous avez l'autre côté. Vous avez des choses comme l'État islamique. L'homme est capable aussi de faire des armes de destruction massive, et ainsi de suite. Et là, vous avez cette dualité qui existe dans l'homme, et qui fait en sorte qu'il est dans une situation extrêmement, extrêmement difficile. Et c'est là maintenant que Dieu doit intervenir dans la personne de son Fils, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui sera le Sauveur. Et là, l'homme, dans cette situation-là, il y a des besoins. Et les besoins que Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, va comblé simplement pour restaurer qu'est-ce que l'homme avait perdu, des choses qu'il y avait en Éden, qu'il a perdu à cause justement du péché. Et là, vous avez le Sauveur qui apparaît sur la scène. Et c'est pourquoi nous avons cette bonne nouvelle. Que l'ange a dit justement au berger, vous annonce une bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. C'est parce que l'homme hors de Éden, chassé hors de Éden, banni, a reçu une sentence de mort. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Et là, le Seigneur, dans sa bonté, dans sa grâce maintenant, intervient dans la vie des hommes, justement pour restaurer ce que l'homme avait perdu. Alors, le Sauveur change la sentence de la mort en une promesse de vie. Quelle bonne nouvelle pour nous. Celui qui écoute ma parole, Jésus va dire, et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, dans un premier temps, le Sauveur qui vient et que nous allons célébrer à Noël, c'est lui qui est venu prendre notre place, qui a vécu une vie de perfection que Adam et Ève n'ont pas pu vivre, mais il est allé plus loin pour cela. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle. Ce Sauveur est venu justement pour donner sa vie à notre place et d'être le substitut pour nos péchés. Et c'est ce que le texte nous dit. Celui qui croit en celui qui m'a envoyé ne vient pas en jugement. Pourquoi? Parce que le jugement de Dieu pour le péché est tombé sur quelqu'un d'autre. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle. C'est pourquoi l'ange a dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de joie. C'est qu'aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Et Jésus-Christ a pris votre place et a pris ma place. Le jugement qui nous est réservé à cause du péché, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden que nous avons vu, quand le serpent est venu tenter les deux, ce jugement est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu maintenant, dans sa bonté, dans sa grâce, peut changer cette sentence de mort, parce qu'il a dit à Adam, le jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un d'autre a subi cette mort à notre place. Oui, la mort physique est toujours là. Mais la mort spirituelle, nous pouvons l'éviter parce que Jésus-Christ est mort à notre place. Alors, le Sauveur change la sentence de la mort à une promesse de vie. Et vous savez, cette promesse de vie, lors de la conversion est une source de joie. Vous avez une illustration dans le vide d'Agag. C'était un roi païen que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël d'aller justement détruire. C'était la façon d'utiliser les enfants d'Israël comme son instrument de jugement pour justement ce peuple qui était rebelle, qui était des pécheurs, qui ne voulait rien savoir de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. Et Dieu allait utiliser les enfants d'Israël pour justement exercer son jugement. Et là, il y avait le roi Saül qu'on devrait justement aller exterminer ce peuple-là. Et nous savons l'histoire, Saül a épargné les meilleures choses, les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, et il a aussi épargné le roi. Et le roi, en entendant cela, il voyait cela, à un moment donné, Samuel a dit « Amène le roi ici ». Et remarquez bien ce que le texte dit. Agag, c'était son nom, le roi Agag, s'avança vers lui, l'air joyeux, il disait certainement l'amertume de la mort est passée. Et c'est ce qui arrive. Quand nous sommes sous cette sentence de mort ici, il n'y a pas de joie. Lui, dans son idée, la mort, c'était l'amertume de la mort. Alors, pour être dans sa tête, il pensait qu'il allait être épargné. Il s'avança vers Samuel. Il était joyeux. Pourquoi? Parce qu'il dit, je vais vivre. Et nous savons l'histoire, c'était le contraire. Samuel, justement, l'a exécuté. Mais qu'en est-il pour nous, des chrétiens? Je vous annonce une bonne nouvelle, l'ange a dit au berger, qui sera le sujet de tout le peuple. Une grande joie. Pourquoi? Dans le psaume 16, David dit ceci, « Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Bien-aimé, nous avons toutes les raisons, si vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ ce matin, si vous êtes sauvés, vous avez toutes les raisons pour être dans la joie. Pourquoi? Parce qu'un autre apportez votre jugement. Sur la croix de Calvin, le Sauveur, tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Et sur la croix de Calvin, Jésus-Christ est allé mourir à votre place et à ma place pour nous épargner le jugement de Dieu. Et quand nous sommes conscients que le jugement, nous avons été épargnés de la jugement, quel devrait être le sentiment qui devrait jaillir dans nos cœurs? Agag pensait qu'il allait vivre, c'est la vie physique. Il est joyeux, il s'en va vers Samuel, il est content, je vais vivre. On connaît la fin de l'histoire. Mais combien vous et moi, nous devrions être joyeux. Pas seulement à Noël, mais pendant toute l'année, parce que un autre a pris notre jugement à notre place. Et à cause de cela, nous n'allons pas voir la corruption spirituelle. Oui, le camp peut dépérir, on peut mourir, mais gloire à Dieu ce matin, celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est la bonne nouvelle de Noël. Deuxième chose aussi, il vous est né un sauveur. L'ange a dit au berger. Il vous est né un sauveur. Le sauveur change la séparation en proximité. Lors de la chute en Éden, nous avons vu que qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a chassé l'homme. Il a prononcé une sentence de mort. On l'a vu. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Et Jésus vient pour changer la sentence de mort en vie, à cause du fait qu'il est mort à notre place. Dieu aussi a chassé l'homme du jardin. L'homme avait cette proximité avec Dieu. L'éternel Dieu parcourait le jardin le soir, et j'imagine qu'il y avait un tête-à-tête, et combien ça a dû être plaisant d'être dans la présence de notre Créateur, sans péché, de le voir face à face, et d'être capable de dialoguer avec le Créateur. Et vous savez, à cause du péché, comme nous avons vu, tout cela a été chassé. Séparé, la séparation avec son Créateur. Et maintenant, le Sauveur maintenant va revenir. Et c'est pourquoi c'est une bonne nouvelle. Un Sauveur qui va changer la séparation en proximité. Et beaucoup plus que ce que Adam avait en Éden. La Bible dit que quand nous sommes sauvés, vous et moi, nous devenons membres du corps de Jésus-Christ, de façon spirituelle. Jésus-Christ est la tête, et nous sommes des membres de son corps. Et nous faisons partie, justement, du corps de Jésus-Christ. On ne peut pas être plus près de cela. Hein? Adam, il y avait une certaine proximité. Oui, Dieu était dans le jardin, il voyait Dieu. Mais vous et moi, chers chrétiens, vous êtes sauvés ce matin. Nous faisons partie du corps de Jésus-Christ. Nous sommes devenus une même plante avec lui, dit la parole de Dieu. C'est pourquoi Noël, c'est un sujet d'histoire de joie. Parce que maintenant, nous sommes rattachés à notre Sauveur. David, dans le psaume 128, va dire ceci, « Je suis dans la joie quand on me dit « allant dans la maison de l'Éternel ». Et David avait justement ce sentiment que s'approcher, aller justement vers l'Éternel. À l'époque de David, c'était le temple d'assignation. Plus tard, ça va être le temple. Mais les gens qui s'approchaient de Dieu étaient justement joyeux parce que Dieu qui résidait justement dans le lieu très saint, il ne pouvait pas y aller, c'est juste souverain sacrificateur, mais au moins il y avait s'approcher. Pouvez-vous imaginer la joie que justement, le privilège que vous et moi que nous avons. Le souverain sacrificateur pouvait entrer juste une seule fois dans la présence de Dieu. Vous et moi, nous sommes membres du corps de Jésus-Christ. Nous pouvons avoir un entretien avec le Seigneur 24 heures sur 24. N'importe quand, nous pouvons rentrer dans sa présence. Et comment est-ce que nous faisons cela? Mais il y a deux choses qui nous permettent cela, la parole de Dieu et la prière. Il y a le prophète Jérémie qui va dire ceci, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait quoi? La joie et l'allégresse de mon cœur. » Alors, quelqu'un qui veut avoir cette intimité avec Dieu, cette intimité que la parole de Dieu nous donne, plongeons nos regards dans la parole de Dieu et on connecte avec Dieu, mais ça nous donne justement ce sentiment de joie que nous sommes dans la présence de notre Dieu. Et ensuite aussi, la façon de cette proximité, c'est pas la prière, et ça peut être dans l'adoration, dans la louange, des actions de grâce, qu'importe, le texte nous dit, en te célébrant j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme. Alors, on voit comment est-ce que le sauveur restant ce que Adam a perdu. Cette vie qu'il a perdue, le jour que tu mangeras, tu mourras, le sauveur vient pour justement restaurer cela. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Cette proximité qu'Adam avait avec Ève, il a perdu en Éden. Le Seigneur le restaure et nous rattache à sa personne, avec sa parole, dans la prière, dans cette intimité. Et troisièmement, le sauveur change la souillure en perfection. Adam a écopé, justement, il y avait cette souillure du péché qui est rentrée le jour qu'il a péché. Et vous voyez, comme j'ai montré l'image de comment est-ce que l'homme est capable du meilleur et du pire. Et cette image de Dieu a été perdue. Et vous voyez justement les conséquences de cela. Et je crois que l'homme est conscient de cela. Ça vient nous chercher. Quand on voit tout le mal que l'être humain est capable de faire, il est un génie, oui, pour les bonnes choses, mais aussi c'est un génie au mal. Mais la Bible nous dit, ces aspirations qui sont là, je pense qu'ils sont profondément... L'homme, je suis convaincu, soupire de revenir dans cette condition qu'il avait en Éden. Il y avait la vie, il y avait cette proximité avec Dieu, il y avait la ressemblance de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Et aujourd'hui, regarde comment est-ce qu'il est capable de faire des choses que même des animaux ne feront pas entre les autres. Mais le sauveur, il vous est né une sauveur qui va maintenant restaurer tout ce qu'Adam a perdu en Éden. Et il va changer la souillure en perfection. Et des fois, quand on tombe dans le péché, et on devient tellement découragé avec nous autres mêmes. Et souvent, c'est le même pattern qui se répète, on retombe dans la même chose. Quel encouragement pour nous. Ce qui a connu d'avance, il est aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Ah, que c'est encourageant de savoir qu'un jour, on va se débarrasser de ce corps mortel, comme l'apôtre Paul dit, misérable que je suis. Hein? Qui me délivrera de ce corps de péché, corps de mort? Et Paul, il va dire aussi, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. On va être transformé à l'image de Jésus-Christ. Et ça devrait être pour nous un sujet de croix, de joie. Et ça va aussi être, oui, dans un temps futur, mais ça devrait aussi commencer à voir germer dans nos cœurs aujourd'hui, au noce de l'agneau. Le texte nous dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Fini avec le péché. Fini avec la souillure du péché. Transformé maintenant à la ressemblance qu'on avait avant dans le jardin d'Éden. Ressemblance de Dieu, ressemblance à l'image de Jésus-Christ. Alors tout cela, une bonne nouvelle. Noël, la naissance du Christ, sauvant. Qui est Christ le Seigneur. Ça, c'est ce que Jésus est venu justement pour apporter. Dans le pratico-pratique maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? Je vous ai posé une question, je vous ai dit que les chrétiens devraient être joyeux. Et nous avons vu les raisons pourquoi. La sentence de mort a été changée en sentence de vie. Chassés du jardin, éloignés, séparés de Dieu, maintenant nous avons été collés, nous sommes un avec Jésus-Christ. Et aussi cette idée de la souillure du péché qui nous tracasse, qui nous harcèle, on sait qu'un jour on va être débarrassé de cela. Et toutes des raisons pour exploser en joie. Alors êtes-vous joyeux ce matin? Il peut y avoir deux raisons si vous n'êtes pas dans la joie. Tout d'abord, parce que vous ne connaissez pas le sauveur. Parce que sauveur, salut, sauvé rime avec joie. Je vous annonce une bonne nouvelle, l'ange dit, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Alors, si ce matin vous êtes ici, vous ne pouvez pas dire j'ai cette joie dans mon cœur parce que je connais le Seigneur. Mais la recette est simple. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et si vous vous reconnaissez perdu devant Dieu, le sauveur, le berger va vous trouver. Il va vous trouver. Et vous allez, il va vous, en vous repentant de vos péchés et en acceptant son œuvre à la croix, ce qu'il a fait, il est mort comme nous avons vu, à votre place. Il a payé la dette de vos péchés. Et si vous dites, comme cet homme a dit, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Selon la parole de Dieu, vous serez sauvés. Crois au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Le jugement de Dieu qui est tombé sur Jésus-Christ. Alors Dieu maintenant peut vous épargner et vous donner la vie. Parce qu'un autre a payé la dette de votre péché, de mes péchés. C'est réglé avec Dieu. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on se repent et qu'on accepte son Fils comme notre sauveur. Et ça, c'est une source de joie. Comme l'unique, comme vous, comme moi, vous avez expérimenté le jour où vous avez le sauvé. Mais il est aussi possible que vous êtes ici et vous êtes sauvé. Mais il n'y a pas de joie dans votre vie. Vous savez, le fruit de l'esprit, c'est l'amour et c'est la joie. Alors, il est possible, je ne lis pas dans les cas, mais il est possible qu'il y ait quelque chose dans votre vie qui cloche et qui est en train d'attrister le Saint-Esprit et qui rompt la communion avec Dieu. Votre relation est toujours correcte, vous êtes enfant de Dieu, il n'y a rien qui peut vous enlever cela. Mais cette communion intime, cette proximité, cette intimité avec Dieu, c'est très fragile, vous pouvez la perdre à cause du péché. Alors, si tel est votre cœur, mais il faut que vous preniez le temps d'aller dans la présence de Dieu et demander au Seigneur de révéler qu'est-ce qui cloche pour que vous n'ayez pas cette joie dans votre cœur. Je sais qu'il y a des moments difficiles dans votre vie, dans ma vie aussi, mais la vie chrétienne, comme je dis, c'est une vie surnaturelle, pas naturelle. Et par la puissance d'esprit, nous pouvons vivre au-dessus des circonstances et d'être dans la joie malgré les circonstances. Mais j'aimerais faire deux applications pratiques en terminant. Vous savez, le jour que vous avez été sauvé, il y a un parallèle ici avec le sauveur. Le jour où est-ce que les anges ont annoncé la naissance de Jésus, il y avait une grande joie. Et une bonne nouvelle qui sera le sujet d'une grande joie. Le jour que vous avez été sauvé, Luc chapitre 15, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait une explosion de joie au ciel. Il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Le jour où est-ce que Jésus-Christ a terminé son ministère sur la terre, et il est rentré dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Lui qui, pour la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix, il a souffert la croix, enduré l'ignominie, et est assis à la droite de Dieu. D'accord? Alors, quand Christ est rentré triomphalement au ciel, il y avait une explosion de joie. Et le jour aussi, quand le Seigneur viendra nous chercher, et nous allons rentrer dans sa présence, nous avons vu au noce de l'agneau, il va y avoir une joie indescriptible. Mais maintenant, aujourd'hui, dans le pratico-pratique, dans le présent, est-ce que, comme Jésus-Christ, et vous voyez Jésus-Christ sur la terre maintenant, j'ai fait le parallèle avec nous sur la terre maintenant, à sa naissance, la joie, à notre naissance spirituelle, la joie. Jésus-Christ retourne au ciel, la joie, quand nous allons rentrer au ciel, la joie. Mais Jésus-Christ sur la terre, le Père a ouvert les cieux. Il a regardé son Fils. Vous avez la version du second. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le sommeur va dire ceci, tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Est-ce que si on fait maintenant le parallèle, est-ce que Jésus peut regarder du ciel ce matin et regarde et dire, tu es mon enfant, tu es ma fille, tu es ma fille, tu fais ma joie. Pourquoi? Parce que tu es en train d'apprécier le salut que je vous ai donné. Vous savez, les enfants d'Israël ont été sauvés de l'esclavage en Égypte. Mais ils étaient une source de chagrin pour Dieu. Combien de fois on les voit en train de chioler, comme on dit en bon québécois. Ils n'appréciaient pas ce qu'ils avaient eu. Combien de fois ils ont dit, on va retourner en Égypte. Et le Seigneur était affligé dans son cœur. Que nous qui avons eu tellement de la part de Dieu, pouvons nous être reconnaissants et réjouir le cœur de notre Père, comme Jésus-Christ l'a fait, quand il a dit, je fais toujours celui qui était agréable. C'est que ce n'est pas toujours facile. Mais quand nous regardons notre salut, ce que Dieu, le sauveur, nous a procuré, que nous soyons ceux qui sont dans la joie à cause de ce que nous avons. Et aussi, la deuxième chose, notre vie, en étant une vie joyeuse, a le potentiel d'attirer les gens vers Jésus-Christ. J'ai dit au début qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Mais j'aimerais vous montrer un texte qui est dans Actes des Apôtres, où est-ce que les premiers croyants qui étaient caractérisés par la joie, et regarde qu'est-ce qui se passe. Je ne dis pas que c'est toujours comme cela, parce que tu peux être un chrétien qui partage ta foi, tu es zélé, tu es bouillonné, et tu es rejeté, et ainsi de suite. Mais au moins si les gens te rejettent, que ce soit pour les bonnes raisons. Pas à cause du fait que si les gens rejettent l'évangile, c'est pas à cause du fait que toi, tu es en partie responsable. Ce serait pour les bonnes raisons. Mais les premiers chrétiens ont dit que ceux qui étaient là, ils prenaient leur nourriture avec joie. C'est une expression qui simplement dit que le train-train de leur vie, là, même la simple chose que manger, boire, leur vie était caractérisée par cette expression, cet sentiment de joie. Et trouver grâce autour de tout le peuple. Alors les gens regardaient et dirent, lui là, il y a quelque chose que moi je n'ai pas. Elle là, il y a quelque chose que moi je n'ai pas. Et regarde le contexte, je trouve ça très intéressant, que dans ce contexte-là, où est-ce qu'il y a la joie, les gens sont impressionnés par ce que ces gens vivaient. Nous avons des gens qui sont sauvés. Le Seigneur a ajouté à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Et ça, c'était pour moi une puissante attirance justement vers le Jésus-Christ à cause du fait que les chrétiens vivaient une vie joyeuse. Imaginez-vous qu'est-ce que le Seigneur pourrait faire ici, dans cette église, dans votre foyer, dans au bureau, au travail, dans la société autour de nous, si nous étions caractérisés par la joie, malgré les circonstances, malgré les difficultés. Pourquoi? Parce que nous avons un sauveur. Parce que nous avons été sauvés. Parce que nous possédons le salut. Et comme nous avons vu, salut, sauveur, être sauvé, rime avec joie. Noël, naissance de Jésus-Christ, naissance d'une sauveur, une histoire de joie. Et qu'il en soit ainsi dans votre vie et dans la mienne, et que le Seigneur puisse attirer des gens vers lui à cause du fait que nous vivons des vies joyeuses malgré les circonstances, et les gens nous regardent comme les premiers chrétiens. On trouve grâce auprès de leurs yeux, et le Seigneur, dans sa souveraineté, ajoute des personnes à cause de notre témoignage. La semaine prochaine, Dieu voulant, si nous ne sommes pas dans la joie, dans le ciel, nous allons voir la deuxième volet, Noël, une histoire de paix. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci d'être cette lumière qui brille dans les ténèbres, surtout à ce temps de l'année où est-ce que nous voyons des maisons illuminées. Nous voyons les arbres de Noël aussi illuminés. Nous nous rappelons que tu es la lumière du monde. Et merci Seigneur que ta lumière a brillé dans nos cœurs un jour et nous avons vu le Sauveur. Alors Seigneur, que nous puissions être un peuple, oui, comme nous avons vu, dans la joie, à cause du fait que nous connaissons le Sauveur. Mets ta bonne main sur ton peuple, mets ta bonne main sur chacun de nous, Seigneur. Que ta grâce nous accompagne. Et pour ceux qui sont toujours dans les ténèbres, Seigneur, dans ta compassion, peux-tu les éclairer afin qu'ils puissent connaître le Sauveur comme le Seigneur comme leur Sauveur et avoir cette joie dans le cœur de savoir d'être sauvé. Sépare-nous avec ta bénédiction, au nom de Jésus. Amen.